La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez ce matin sur l'arrestation samedi à Asnières, près de Paris, du génocidaire rwandais présumé Félicien Kabuga.
Oui, celui que la presse française a beaucoup décrit ce week-end comme l'argentier, le financeur du génocide de 800 000 Tutsis au Rwanda au printemps 1994, est plutôt présenté dans les pages du New Times de Kigali comme l'architecte Kabuga. Celui qui a échafaudé le mécanisme implacable du génocide, passé commande de millions de machettes et armé les esprits, aussi en créant et en présidant la pire arme de ces massacres, la radio des mille collines, celle qui a préparé les esprits au pire et organisé le passage à l'acte des milices interahamwées. 26 années de cavale plus tard, l'homme le plus recherché d'Afrique avec 5 millions de dollars de primes sur sa tête tombe donc à 85 ans dans les filets de la police française. Interpellé au petit matin dans un appartement où il vivait tranquillement, en famille et sous une fausse identité au cœur d'une coquette banlieue parisienne. Tout cela fait dire à l'observateur Palga, le grand quotidien d'Afrique de l'Ouest, que c'est un gros requin qui a été pris sur les bords de la Seine. Bien sûr, poursuit The New Times, la France doit des comptes au Rwanda sur le fait qu'un des derniers génocidaires recherchés par la justice internationale ait pu échapper pendant si longtemps à la vigilance de notre pays. Et à ce propos, on notera la différence sémantique entre ceux qui, comme Le Soir en Belgique, décrivent comme un roman un petit peu la vie d'errance de Félicien Kabuga ce dernier quart de siècle, en faisant un homme traqué du Rwanda à la France en passant par le Kenya et les Comores, ou bien les journaux, cette fois comme le magazine Jeune Afrique, qui s'interroge plutôt sur les protections sans lesquelles ces 26 années de folle cavale n'auraient pas été possibles. Le fait de le retrouver aux portes de Paris, c'est une grosse surprise, on le pensait en Afrique. Mais si Félicien Kabuga a pu résider en France, c'est qu'il avait soit un réseau de soutien issu de l'ancien régime rwandais, soit qu'il bénéficiait aussi de complicité française. Voilà ce qu'explique Philippe Grant de l'ONG Trial International, interrogé par Le Temps à Genève.
Car la Suisse n'échappe pas non plus aux critiques dans le dossier Kabuga.
Oui, c'est elle la première qui l'a laissé disparaître dans la nature. C'était en 1994, juste après le génocide. Des réfugiés rwandais, victimes des interahamwées, nous raconte Le Temps, avaient reconnu leur bourreau en chef, Félicien Kabuga, parmi la foule de leurs semblables dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ils l'avaient signalé, les autorités helvétiques avaient été alertées donc, mais elles avaient préféré, à l'époque, en 1994, expulser simplement celui qui était à l'époque encore le plus riche et l'un des plus puissants hommes du Rwanda. Ce jour-là, on a perdu 26 ans, résume Philippe Grant, toujours donc dans les colonnes du Temps. Avant de poursuivre, des enquêteurs ont même été tués en cherchant à retrouver sa trace. Tout cela ne serait pas arrivé si la Suisse ne l'avait pas laissé filer. Depuis samedi, conclut le Burundi Daily, Kigali et le Monde Libre exultent de savoir l'architecte donc du génocide enfin derrière les barreaux. La suite, s'interroge The New Times depuis Kigali, eh bien elle devrait prendre la forme d'une complexe bataille de compétences entre juridictions nationales, rwandaises et internationales onusiennes. Félicien Kabuga pourrait être jugé aussi bien dans son pays, comme l'ont été les précédents génocidaires arrêtés et jugés, ou bien devant un tribunal du mécanisme international spécial créé pour le Rwanda à Arusha en Tanzanie, ou même à La Haye, plus classiquement aux Pays-Bas. Dans les méandres de cette justice de l'histoire mondiale, une chose est sûre, et c'est le titre de l'article du Temps que j'ai déjà cité tout à l'heure. Le pire pour ces victimes, ce serait que Félicien Kabuga, 85 ans, décède avant d'avoir pu être jugé.
Et puis on part à présent au Brésil. Camille, frappé à son tour par la déferlante Covid-19.
Oui, les hôpitaux des principales villes du pays, à commencer par Sao Paulo, sont sur le point d'imploser sous le poids des malades qui leur sont amenés, alerte la BBC, laquelle décrit des équipes médicales trop peu et trop mal préparées à ce pic épidémique pourtant terriblement prévisible. Le nombre de morts dépasse désormais les 16 000 pour 240 000 personnes contaminées à ce jour, selon les données du ministère de la Santé reprises par le groupe de presse brésilien Globo. En quelques jours, donc, le Brésil est devenu le quatrième pays le plus durement touché par la pandémie, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Le pire, c'est donc que tout cela, eh bien, était écrit et que rien ou presque n'a été fait pour l'empêcher au sommet de l'État brésilien. Selon la formule très juste employée par Romeo Cotroneo dans Il Corriere della Sera en Italie, le Brésil paye aujourd'hui la facture de l'entêtement et du déni dans lequel s'est enfermé le président Jair Bolsonaro ces deux derniers mois. Un président qui, à l'inverse, par exemple de son grand ami Donald Trump, semble lui fragiliser politiquement par tout ça. Il a vu encore ce week-end son ministre de la Santé démissionner et c'est le second en un mois parce que la présidence a voulu lui imposer, contre tous les avis scientifiques, de revoir tous les protocoles médicaux pour ordonner que l'on donne de la chloroquine aux malades de la Covid-19. Plus grave encore, rapporte le magazine Veja, l'étau judiciaire se resserre contre Jair Bolsonaro et son entourage, ses fils notamment visés par l'enquête judiciaire tonitruante qu'a lancé le parquet général du Brésil. Il s'agit d'établir si, comme l'a révélé l'ex-baron noir du président et ministre de la Justice, Sergio Moro, lui-même démissionnaire il y a deux semaines, Jair Bolsonaro a bien fait pression sur l'appareil judiciaire pour empêcher que ce dernier ne s'intéresse donc de trop près à ses fils. Et voilà qui pousse l'éditorialiste do Globo, Myriam Leitao, à évoquer la possibilité d'une procédure d'impeachment contre ce président qui, dit-elle, a commis des crimes d'irresponsabilité, a violé le droit social, la santé publique, menacé le libre exercice des pouvoirs législatifs et judiciaires. Les preuves d'autres crimes s'accumulent chaque jour un peu plus sur le bureau du procureur général Augusto Aras. La constitution brésilienne est claire, il faut 172 voix de députés pour destituer le président, comme cela avait été fait pour Dilma Rousseff. Reste à savoir si le président du Parlement et bête noire de Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, va prendre ou non la responsabilité de lancer la procédure. En tout cas, s'il ne le fait pas, conclut Myriam Leitao, ce ne sera pas faute de preuves accablantes contre le président, mais bien pour de sombres motifs politiques.